Les grandes espérances, deuxième partie, chapitre 8. Pensant que le dimanche était le jour le plus convenable pour aller consulter M. Wemmick à Walworth, je consacrai l'après-midi du dimanche suivant à un pèlerinage au château. En arrivant devant les créneaux, je trouvai le pavillon flottant et le pont-levis levé. Mais, sans me laisser décourager par ces démonstrations de défiance et de résistance, je sonnai à la porte et fus admis de la manière la plus pacifique. « Mon fils, monsieur, dit le vieillard, après avoir assuré le pont-levis, avait dans l'idée que le hasard pourrait vous amener aujourd'hui, et il m'a chargé de vous dire qu'il serait bientôt de retour de sa promenade de l'après-midi. » Il est très réglé dans ses promenades, mon fils, très réglé en toutes choses, mon fils. Je faisais des signes de tête au vieillard, comme Wemmick lui-même aurait pu faire, et nous entrâmes nous mettre près du feu. C'est à son étude que vous avez fait la connaissance de mon fils, monsieur, dit le vieillard en gazouillant selon son habitude, tout en se chauffant les mains à la flamme. Je fis un signe affirmatif. « Ah, j'ai entendu dire que mon fils était très habile dans sa partie, monsieur. » Je fis plusieurs signes successifs. « Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il s'occupe de jurisprudence. » Je fis des signes sans interruption. « Ce qui me surprend beaucoup chez mon fils, dit le vieillard, car il n'a pas été élevé dans cette partie, mais dans la tonnellerie. » Curieux de savoir ce que le vieillard connaissait de la réputation de M. Jaggers, je lui hurlai ce nom à l'oreille. Il me jeta dans une grande confusion en se mettant à rire de tout son cœur et en répliquant d'une manière très fine « Non, à coup sûr, vous avez raison. » Et, à l'heure qu'il est, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il voulait dire, ni de la plaisanterie qu'il croyait que j'avais faite. Comme je ne pouvais pas rester à lui faire perpétuellement des signes de tête, je lui demandai en criant s'il avait exercé la profession de tonnelier. À force de hurler ce mot plusieurs fois, en frappant doucement sur le ventre du vieillard, pour mieux attirer son attention, je réussis enfin à me faire comprendre. « Non, dit-il, un magasin, d'abord, là-bas. » Il semblait me montrer la cheminée, mais je crois qu'il voulait dire à Liverpool. « Et puis, dans la cité de Londres, ici. Cependant, ayant une infirmité, car j'ai l'oreille dure, monsieur. » J'exprimai par geste le plus grand étonnement. « Oui, j'ai l'oreille dure. » Et voyant cette infirmité, mon fils s'est mis dans la jurisprudence, et il a pris soin de moi, et petit à petit il a créé cette élégante et belle propriété. Mais, pour en revenir à ce que vous disiez, vous savez, poursuivit le vieillard en riant de nouveau, « je dis, non, à coup sûr, vous avez raison. » Je me demande modestement si mon extrême ingénuité m'aurait jamais mis à même de dire quelque chose qui l'aurait amusé moitié autant que cette plaisanterie imaginaire, quand j'entendis tout à coup un clic-clac dans le mur d'un côté de la cheminée et que je vis s'ouvrir un carré montrant une petite planchette sur laquelle on lisait « John ». Le vieillard suivait mes yeux et s'écria d'une voix triomphante « Mon fils est rentré !» Et tous deux, nous nous rendîmes au pont-levis. On aurait vraiment payé pour voir Wemmick m'adressant un salut de l'autre côté du fossé, pendant que nous aurions pu nous serrer la main par-dessus, avec la plus grande facilité. Le vieux était si enchanté de faire manœuvrer le pont-levis que je n'offris pas de l'aider. Je me tins tranquille, jusqu'au moment où Wemmick eut traversé et m'eut présenté à Miss Skiffins. C'était une jeune femme qui l'accompagnait. Miss Skiffins avait l'air d'être en bois, et ouvrait la bouche comme celui qui l'escortait. Elle pouvait avoir 2 ou 3 ans de moins que Wemmick, et, à juger par l'apparence, elle paraissait assez à son aise. La coupe de ses vêtements, depuis le haut de la taille, par derrière et par devant, la faisait ressembler beaucoup à un cerf-volant, et j'aurais pu trouver sa robe d'un orange un peu trop décidé et ses gants d'un vert un peu trop intense, mais elle paraissait être une excellente personne et montrait les plus grands égards pour le vieux. Je ne fus pas longtemps à découvrir qu'elle rendait de fréquentes visites au château, car lorsque nous entrâmes, et que je complimentais Wemmick sur son ingénieux moyen de s'annoncer à son père, il me pria de fixer, pour un instant, mon attention de l'autre côté de la cheminée, et disparut. Bientôt, on entendit un autre clic-clac, et un autre petit carré s'ouvrit, sur lequel on lisait « Miss Skiffins ». Alors le carré de Miss Skiffins se ferma, et celui de John s'ouvrit. Ensuite, Miss Skiffins et John s'ouvrirent ensemble, et finalement ils se fermèrent ensemble. Lorsque Wemmick revint de faire manœuvrer ses petites mécaniques, j'exprimai toute l'admiration qu'elle m'inspirait, et il me dit « Vous savez, elles sont toutes deux agréables et utiles au père. Et par Saint-Georges, monsieur, c'est une chose digne de remarque, que de tous les gens qui viennent à cette porte, le secret de ses ressorts n'est connu que du vieux, de Miss Skiffins et de moi. » « Et c'est monsieur Wemmick qui les a fait, » ajouta Miss Skiffins, « de son imagination et de sa propre main. » Miss Skiffins ôta son chapeau, mais elle garda ses gants verts pendant toute la soirée comme un signe visible et extérieur qu'il y avait compagnie. Wemmick m'invita à aller faire un tour dans la propriété pour jouir de l'effet de l'île pendant l'hiver. Pensant qu'il agissait ainsi pour me fournir l'occasion de prendre ses sentiments de Walworth, j'en profitai aussitôt que nous fûmes sortis du château. Ayant bien réfléchi à ce sujet, je l'abordai comme s'il n'en avait jamais été question auparavant. J'appris à Wemmick que j'étais inquiet sur le compte d'Herbert Pocket, et je lui dis comment nous nous étions d'abord rencontrés et comment nous nous étions battus. Je dis quelques mots en passant de la famille d'Herbert, de son caractère, de son peu de ressources personnelles et de la pension inexacte et insuffisante qu'il recevait de son père. Je fis allusion aux avantages que j'avais tirés de sa société dans mon ignorance primitive et mon peu d'usage du monde, et j'avouai que je craignais de ne l'avoir que fort mal payé de retour, et qu'il aurait mieux réussi sans moi et mes espérances. Tenant Miss Havisham à un plan très éloigné, je laissai entrevoir que j'aurais désiré prendre des arrangements avec lui pour son avenir, ayant la certitude qu'il possédait une âme généreuse et qu'il était au-dessus de tout soupçon d'ingratitude ou de mauvais dessein. « Pour toutes ces raisons, dis-je à Wemmick, et parce qu'il est mon compagnon et mon ami, et parce que j'ai une grande affection pour lui, je souhaiterais de faire refléter sur lui quelques rayons de ma bonne fortune, et en conséquence, je viens demander conseil à votre expérience et à votre connaissance des hommes et des affaires, et savoir de vous comment, avec mes ressources, je pourrais assurer à Herbert un revenu réel, une centaine de livres par an, par exemple, pour le tenir en bon espoir et bon courage, et graduellement lui acheter une petite part dans quelque association. » En concluant, je priai Wemmick de bien comprendre que je désirais tenir ce service secret, sans qu'Herbert en eût connaissance ou soupçon, et qu'il n'y avait personne autre au monde à qui je pusse demander conseil. Je terminai en posant ma main sur son épaule et en disant « Je ne puis m'empêcher de me fier à vous, bien que je sache que cela vous embarrasse, mais c'est votre faute, puisque vous m'avez vous-même amené ici. » Wemmick garda le silence pendant un moment, puis il dit avec une sorte d'élan « Sachez-le, monsieur Pip, je dois vous dire une chose, c'est que cela est diablement bien à vous. Dites que vous m'aiderez à faire le bien alors. Diable !» répliqua Wemmick en secouant la tête. « Ça n'est pas mon affaire. »« Ce n'est pas non plus ici votre maison d'affaires, » dis-je. « Vous avez raison, » répondit-il. « Vous frappez le clou sur la tête, monsieur Pip. Je vais y réfléchir si vous le voulez bien, et je pense que tout ce que vous voulez faire peut être fait petit à petit. Skiffins, c'est le frère de mademoiselle, est un comptable. Je le verrai et lui dirai votre projet. » « Oh, je vous remercie 10 000 fois !»« Au contraire, » dit-il, « c'est à moi de vous remercier. Car, bien que nous agissions strictement sous notre responsabilité privée et personnelle, on peut dire cependant qu'il reste toujours autour de nous quelques toiles d'araignée de Newgate, et cela les enlève. » Après avoir causé quelques moments de plus, nous rentrâmes au château où nous trouvâmes Miss Skiffins en train de préparer le thé. La responsabilité du pain rôti était laissée au vieux, et cet excellent homme y mettait une telle ardeur que ses yeux me semblaient être en danger de fondre. Le repas que nous allions faire n'était pas seulement nominal, mais une vigoureuse réalité. Le vieillard avait préparé une telle pyramide de rôtis beurrés que c'est à peine si je pouvais le voir par-dessus, tandis qu'il accrochait le grill au sommet de la barre supérieure de la grille à charbon de terre, après les avoir enlevés et les avoir remplacés par d'autres qui commençaient à fumer. De son côté, Miss Kiffins brassait une telle quantité de thé que le cochon, relégué dans un endroit retiré, en fut fortement excité et qu'il manifesta à plusieurs reprises son désir de prendre part à la fête. Le pavillon avait été baissé, le canon tiré à l'heure dite, et je me sentais aussi séparé du reste du monde, qui n'était pas Walworth, que si le fossé avait eu 30 pieds de largeur et autant de profondeur. Rien ne troublait la tranquillité du château, si ce n'est le bruit que faisaient en s'ouvrant de temps à autre John et Miss Skiffins. Ces petites portes semblaient en proie à quelque infirmité spasmodique et sympathique, et je me sentis mal à l'aise jusqu'à ce que j'y fusse habitué. D'après la nature méthodique des arrangements de Miss Skiffins, je conclus qu'elle faisait le thé tous les dimanches soirs, et je soupçonnais certaines broches classiques qu'elle portait, représentant le profil d'une femme peu séduisante, avec un nez aussi mince que le premier quartier de la lune, d'être un cadeau de Wemmick. Nous mangeâmes toutes les rôties et bûmes du thé en proportion, et il était réjouissant de voir combien, après le repas, nous étions tous chauds et graisseux. Le vieux, surtout, aurait pu passer pour un vieux chef de tribu sauvage nouvellement huilé. Après un moment de repos, Miss Kiffins, en l'absence de la petite servante qui, à ce qu'il paraît, se retirait dans le sein de sa famille les après-midi du dimanche, lava les tasses à thé comme une dame qui le fait pour s'amuser et de manière à ne pas se compromettre vis-à-vis d'aucun de nous. Puis elle remit ses gants verts et nous nous groupâmes autour du feu. Alors Wemmick dit « Maintenant, vieux père, lisez-nous le journal. » Wemmick m'expliqua pendant que le vieux tirait ses lunettes, que c'était une vieille habitude et que le vieillard éprouvait une satisfaction infinie à lire le journal à haute voix. « Je ne chercherai pas de prétexte pour l'en empêcher, » dit Wemmick, « car il a si peu de plaisir. Y êtes-vous, vieux père ?»« J'y suis, John, j'y suis, » répondit le vieillard en voyant qu'on lui parlait. « Faites-lui seulement un signe de tête de temps en temps quand il quittera le journal des yeux, » dit Wemmick. « Et il sera heureux comme un roi. Nous écoutons, vieux père. »« Très bien, John, très bien, » repartit le joyeux vieillard, si content et si affairé que c'était vraiment charmant de le voir. Le vieillard, en lisant, me rappela la classe de la grand-tante de M. Wopsle, avec cette plaisante particularité que sa voix semblait sortir par le trou de la serrure. Comme il avait besoin que les chandelles fussent près de lui, et comme il était toujours sur le point de brûler, soit sa tête, soit le journal, il demandait autant de surveillance qu'un moulin à poudre. Mais Wemmick était également infatigable dans sa douceur et dans sa vigilance, et le vieux continuait à lire sans se douter des nombreux dangers dont on le sauvait à tout moment. Toutes les fois qu'il levait les yeux sur nous, nous exprimions tous le plus grand intérêt et la plus grande attention, et nous lui faisions des signes de tête jusqu'à ce qu'il continuât. Comme Wemmick et Miss Kiffins étaient assis l'un à côté de l'autre, et comme j'étais, moi, dans un coin obscur, j'observais une extension longue et graduelle de la bouche de M. Wemmick, en même temps que son bras se glissait lentement et graduellement autour de la taille de Miss Kiffins. Avec le temps, je vis paraître sa main de l'autre côté de Miss Kiffins. Mais à ce moment, Miss Kiffins l'arrêta doucement avec son gant vert, ôta son bras comme si c'eût été une partie de son propre vêtement et, avec le plus grand sang-froid, le déposa sur la table devant elle. Le calme de Miss Kiffins pendant cette opération était un des spectacles les plus remarquables que j'eusse encore vu, et on aurait presque pu croire qu'elle le faisait machinalement. Bientôt, je vis le bras de Wemmick qui recommençait à disparaître, et graduellement, je le perdis de vue. Un peu après, sa bouche commença à s'élargir de nouveau. Après un intervalle d'incertitude qui, pour moi du moins, fut tout à fait fatigant et presque pénible, je vis sa main paraître de l'autre côté de Miss Kiffins. Aussitôt, Miss Kiffins l'arrêta avec le calme d'un placide boxeur, ôta cette ceinture ou ceste, comme la première fois, et la posa sur la table. Supposant que la table était l'image du sentier de la vertu, je dois déclarer que, pendant tout le temps que dura la lecture du vieux, le bras de Wemmick s'éloigna continuellement de ce sentier et y fut, non moins continuellement, ramené par Miss Kiffins. À la fin, le vieillard tomba dans un léger assoupissement. Ce fut le moment pour Wemmick de produire une petite bouilloire, un plateau et des verres, ainsi qu'une bouteille noire à bouchon de porcelaine représentant quelques dignitaires cléricales à l'aspect rubicon et gaillard. À l'aide de tous ces ustensiles, nous eûmes tous quelque chose de chaud à boire, sans excepter le vieux qui ne tarda pas à se réveiller. Miss Kiffins composait le mélange, et je remarquai qu'elle et Wemmick burent dans le même verre. J'étais sans doute trop bien élevé pour offrir de reconduire Miss Kiffins jusque chez elle. Et dans ces circonstances, je pensais que je ferais mieux de partir le premier. C'est ce que je fis, après avoir pris cordialement congé du vieillard et passé une soirée extrêmement agréable. Avant qu'une semaine fût écoulée, je reçus un mot de Wemmick daté de Walworth et m'informant qu'il espérait avoir avancé l'affaire dont nous nous étions occupés et qu'il serait bien aise de me voir à ce sujet. Je me rendis donc de nouveau plusieurs fois à Walworth, et cependant, je l'avais souvent vu et revu dans la cité, mais nous n'ouvrions jamais la bouche sur ce sujet dans la petite Bretagne ou ses environs. Le fait est que nous trouvâmes un jeune et honorable négociant, ou courtier maritime, établi depuis peu, et qui demandait un aide intelligent en même temps qu'un capital, et qui, dans un temps déterminé, aurait besoin d'un associé. Un traité secret fut signé entre lui et moi au sujet d'Herbert. Je lui versai comptant la moitié de mes 500 livres, et je pris l'engagement de lui faire divers autres versements, les uns à certaines échéances sur mon revenu, les autres à l'époque où j'entrerai en possession de ma fortune. Le frère de Miss Kiffins dirigea la négociation. Wemmick s'en occupa tout le temps, mais ne parut jamais. Toute cette affaire fut si habilement conduite que Herbert ne soupçonna pas un instant que j'y fusse pour quelque chose. Jamais je n'oublierai le visage radieux avec lequel il rentra à la maison une certaine après-midi et me dit, comme une grande nouvelle, qu'il s'était abouché avec un certain Clarriker. C'était le nom du jeune marchand. Et que Clarriker lui avait témoigné à première vue une sympathie extraordinaire et qu'il croyait que la chance de réussir était enfin venue. À mesure que ses espérances prenaient plus de consistance et que son visage devenait plus radieux, il dut voir en moi un ami de plus en plus affectueux, car j'eus là la plus grande difficulté à retenir des larmes de bonheur et de triomphe en le voyant si heureux. À la fin, la chose se fit, et le jour qu'il entra dans la maison Clarriker, il me parla pendant toute la soirée avec l'animation du plaisir et du succès. Je pleurai alors réellement et abondamment en allant me coucher et en pensant que mes espérances avaient fait au moins un peu de bien à quelqu'un. Maintenant commence à poindre un grand événement dans ma vie et qui la fit dévier de sa route. Mais avant que je raconte et que je passe à tous les changements qui s'en suivirent, je dois consacrer un chapitre à Estelle. C'est bien peu accordé au sujet qui, depuis si longtemps, remplissait mon cœur.